À votre avis, pardon, est-ce plus dans les bons moments ou dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, que les gens ont tendance à se détourner de Dieu? Est-ce dans les bons moments, ou plutôt dans les moments plus difficiles, que les gens ont tendance à plus se détourner de Dieu? Je vais mentionner deux exemples, deux personnes maintenant, et je vais changer les noms pour respecter l'anonymat. Parce que c'est des gens que je connais, pas forcément d'ici, mais je connais quelqu'un, Jean, quelqu'un qui se disait chrétien, en tout cas peut-être qu'il s'est dit toujours chrétien. Il est né handicapé, sans usage de ses jambes. C'était éprouvant pour lui, je le connaissais quand il avait la trentaine, mon âge maintenant. Et il avait un désir ardent aussi de rencontrer quelqu'un et d'être en couple. C'était pas le cas à cette époque et je sais pas trop si c'est le cas maintenant, mais il était fâché envers Dieu. Il y avait un peu de rancœur, d'amertume. Il se plaignait. Il méprisait Dieu dans une certaine manière pour cela. Et à ma connaissance, il en arrivait à se détourner de Dieu. Dans les temps difficiles, on doute parfois que Dieu s'occupe de nous. Nos yeux se fixent sur nos circonstances difficiles. Et parfois, on en arrive à délaisser Dieu, à se détourner de Dieu. Julie est une croyante qui trouve sa vie assez bonne. Elle a eu une promotion au travail. Qui dit promotion dit plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit plus de confort. Qui dit plus de confort, dit aussi parfois plus d'amis, ou en tout cas, elle aime aussi les plus d'événements sociaux qui ont lieu. Elle est plus absente le week-end, elle ne vient pas trop souvent à l'église. Pas qu'il faut aller à l'église pour être chrétien, mais elle délaisse les choses de Dieu qui sont pourtant bonnes pour elle, parce qu'elle s'attache de plus en plus à ces choses matérielles. Et ultimement, après quelques années, elle en arrivait à délaisser Dieu complètement. Dans les bons moments, on a tendance à oublier Dieu et ne plus se préoccuper de lui, à ne plus réaliser qu'on a besoin de lui, ce qui est tragique. Quelles que soient nos circonstances, au final, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je pense que l'homme, et on va voir dans ce passage, que l'homme a une fâcheuse tendance à oublier Dieu, à le laisser de côté, à dépendre de soi, et quand ces moments sont difficiles, parfois à mépriser Dieu. Et quand les moments sont, on passe par des bons moments, parfois c'est de l'autosuffisance, de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu. C'est tragique dans les deux cas. Dans Deutéronome 8, Dieu enseigne à Israël ceci, et je pense qu'il veut nous enseigner la même chose. Il leur dit, il nous dit, souviens-toi de l'Éternel. Quand tu passeras dans les bons moments, souviens-toi de l'Éternel, de là d'où il t'a tiré, mais aussi là où il t'emmène. Et ce souvenir, quand il dit souviens-toi, c'est pas juste un mémo dans la tête et c'est tout, comme un fait dont on se rappelle sans conséquence. C'est plutôt comme un rappel dans le GSM qui nous rappelle de faire quelque chose, de passer à l'action. Et c'est un rappel de se souvenir de quelque chose, n'est-ce pas? Et ce souvenir, ça devrait provoquer une humble dépendance de Dieu et une humble obéissance de Dieu. Dieu nous dit, souviens-toi de l'Éternel, de là d'où il te tire et de là où il t'emmène pour vivre différemment aujourd'hui et demain quand les choses iront bien. Donc, premier point qu'on voit dans cette première chose, souvenez-vous de l'épreuve passée du désert et suivez-moi sur le feuillet si vous voulez, suivez-moi dans le texte pour voir si je dis des bêtises. C'est utile, je pense. Souvenez-vous de l'épreuve passée du désert, Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. En fait, dans le Deutéronome, Dieu est en train de parler au travers de Moïse à la deuxième génération des Israélites, qu'il a fait sortir d'Égypte, n'est-ce pas, pour les emmener dans son pays promis. Il y a eu une première génération qui a péri dans le désert. Et Dieu veut que cette deuxième génération, qui est sur le point d'entrer dans le pays promis, où il y aura l'abondance, il veut dire, souviens-toi de ce qui s'est passé à tes pères. Souviens-toi des leçons qu'ils devaient apprendre, que je voulais qu'ils apprennent. Parce que dans l'abondance, je veux que tu vives comme eux auraient dû vivre dans le besoin, dans la dépendance de Dieu, dans l'humble dépendance et l'humble obéissance de Dieu. Et on voit que c'est clair. Alors, ce livre est super, creuser l'écriture, ça nous aide à mieux creuser l'écriture, notamment ce passage aussi. Il présente des outils comme la répétition. Et vous voyez, la répétition, vous avez vu le thème de souvenir ou de ne pas oublier ou d'oublier. Vous avez vu cela au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, etc. Au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel. Verset 19, si tu oublies l'Éternel, vous voyez ? Souviens-toi de l'Éternel. Et même si la deuxième génération ne va pas passer par des épreuves, autant d'épreuves que la première génération, Dieu veut qu'ils se souviennent de l'épreuve du désert difficile de leur père, et qu'ils ont, certains pour certains d'entre eux, passé eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Et on voit que dans ce texte, pour eux comme pour nous, le souvenir est crucial. Le souvenir est crucial pour qu'on vive à la gloire de Dieu aujourd'hui, dans l'humble dépendance de lui et l'obéissance. Vous voyez, versets 2 à 5, il appelle la deuxième génération à se rappeler du passé et de se rappeler la pédagogie qu'il avait pour la première génération. Il y avait une bonne pédagogie. Oui, il les a humiliés, n'est-ce pas ? Verset 2, dans ce désert, afin de t'humilier. Souviens-toi de ce chemin qu'il t'a fait emprunter pour t'humilier et t'éprouver. Verset 16 aussi, il t'a fait manger dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver. Et c'est pas dans le sens de méchamment. En fait, c'est comme un bon père. Vous avez vu verset 5, cette pédagogie qui est bonne pour cette première génération. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie dans le sens de t'éduquer comme un homme éduque son enfant. C'était pour la faire du bien. Regarde les versets 16. Afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pourquoi est-ce qu'il les a éprouvés ? En fait, je pense que, comme on voit dans Galates, au travers de la loi et des expériences que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament ont vécu, premièrement, verset 2. Afin de t'humilier pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu obéirais ou non au commandement. La loi était là et les occasions, les épreuves étaient là pour montrer, pour leur montrer à eux, pas pour montrer à Dieu, parce que Dieu sait toutes choses et il sait que dans le pays promis, ils vont se rebeller. Il l'annonce à l'avance, il dit « voici ce que tu vas faire ». C'est pas Dieu qui a besoin de savoir, Dieu sait. Mais c'est pour que la première génération réalise les dispositions de leur cœur. Que quand ils reçoivent même la manne que Dieu pourvoie, dont Dieu, à laquelle Dieu pourvoie miraculeusement, ils râlent, ils grincent des dents et disent « Non, on veut de la viande, c'est pas assez !» Alors qu'ils ont quand même quelque chose dans le ventre. Non, ce qui les intéresse plus, c'est les circonstances. Ils sont plus focalisés sur les dons qui viennent de Dieu que sur Dieu lui-même. Ils sont le cœur idolâtre qui ne s'intéresse pas à Dieu d'abord. Et en fait, l'exemple de la manne même est parfait. Parce que la manne, c'était quoi ? C'était une provision miraculeuse de pain physique, n'est-ce pas ? Mais il fallait écouter la parole de Dieu. Parce qu'il disait, Dieu a dit à son peuple, mais tu dois récolter la manne, mais en fait, tous les jours de la semaine, le lendemain, si la manne va pourrir durant la nuit. Et donc, il faut juste prendre le nécessaire pour une journée. Et le vendredi, vous pouvez prendre la double. Miraculeusement, ça va perdurer jusqu'au lendemain. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu voulait qu'ils comprennent que la survie ne dépend pas du pain physique qu'on pourrait ingérer. Physiquement, mais la survie de manière absolue, la vie, grand V, se survit grâce à Dieu. On doit dépendre de Dieu et de sa parole qui est vitale pour nous. Parce que dans sa parole, il nous dit comment on peut vivre et que on dépend de sa grâce. Alors, nous n'est pas différents de eux, je pense. On n'est pas différent de cette première génération qui aurait dû apprendre par l'épreuve, ni de la deuxième génération qui va finir par, même sans autant avec pas autant d'épreuves qu'eux, finir par pécher aussi. Je pense qu'on n'est pas différent d'eux, malheureusement. Dans les moments de difficulté, dans les moments éprouvants, pécheurs que nous sommes, on se préoccupe souvent plus des circonstances, de nos circonstances, plus des dons de Dieu que Dieu lui-même. Plus des besoins de ce qu'on n'a pas et ce qu'on voudrait avoir que Dieu lui-même, ou plus des choses qu'on a, et on arrive même à râler parce qu'on n'a pas plus, ou pas comme on veut. Par ces épreuves que Dieu nous permet de parler, par lesquelles il nous permet de passer dans sa grâce d'une certaine manière, pour être un pédagogue, un bon pédagogue envers nous, il expose l'état de notre cœur. À quel point vous et moi, on ne se soucie pas de lui, mais des dons qui viennent de lui. C'est offensant contre Dieu. Voyons l'offense qu'on a, l'offense qu'on commet contre lui. Mais gloire soit à Dieu, on n'est pas sous l'ancienne alliance, comme ces Israélites. Parce que vous avez vu verset 1, vous observerez mes commandements afin que vous viviez. Dans une certaine mesure, leur vie dépendait de leur obéissance. Mais nous, on voit ici qu'on a l'état de notre cœur est le même que eux. Et gloire soit rendue à Dieu, que Jésus obéit. Il dépend de Dieu là où nous ne dépendons pas de lui. On voit ça en Matthieu 4 quand il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et le diable vient dans le désert. Dans le désert, 40 jours, 40 nuits, il avait faim. Le désert vient, le diable vient et il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. T'as faim, vas-y, satisfais tes besoins. Et Jésus répond au verset 3, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il montre par là que ce n'est pas les circonstances qui sont ça, ses propres circonstances, lui-même qui est le numéro 1. Mais c'est Dieu. Il a besoin de dépendre de Dieu, de sa parole vitale. Et ainsi, il est notre représentant et notre substitut. Là où nous avons failli dans le désert des épreuves difficiles, ou même des bonnes épreuves, il a obéi là où nous avons désobéi. Il a fait confiance là où nous avons manqué de confiance. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Mais cela étant dit, je pense qu'au travers de ces versets 2 à 5, Dieu veut qu'on se souvienne de l'épreuve difficile du passé dans le désert. En tout cas, d'Israël, première génération, si nous, on n'est pas passé par des épreuves difficiles, mais aussi de nos épreuves difficiles. Qu'on se rappelle que dans ces épreuves difficiles, Dieu a pourvu. En fait, que Dieu a pourvu dans ces moments-là, mais c'est un principe général. C'est Dieu, on dépend de Dieu à tout moment. Dieu pourvoit, pas nous. Mais aussi qu'on ne vit pas de pain seulement. Notre survie, grand V, est dépendant de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de sa parole qui nous expose notre péché, comme dans le désert, mais aussi qui nous rassure qu'en Jésus-Christ, on est réconcilié avec lui par pure grâce. Il veut qu'on se rappelle de cela, qu'on soit dépendant de lui en regardant au passé, pour qu'on soit dépendant de lui dans l'avenir et obéissant. C'est notre deuxième point. Souvenez-vous de Dieu dans l'épreuve des bons moments. Et c'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? Souvenez-vous de Dieu dans l'épreuve des bons moments. Bizarre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit clairement que dans ce texte, le danger, c'est que cette génération, cette deuxième génération, en fait, ils vont connaître des très bons moments, ils vont connaître l'abondance, mais le danger, c'est qu'ils oublient Dieu, ils oublient ce que la première génération aurait dû apprendre, qu'ils dépendent de Dieu, quelles que soient les circonstances, et qu'on devienne autosuffisant, qu'on délaisse ultimement Dieu, et qu'on périsse, nous aussi, même dans les bons moments. Oui, parce que les bons moments vont arriver. Et il veut que Israël, et nous aussi, on ne soit pas comme certains patrons qui ont commencé au plus bas de l'échelle et qui ont reconnu leur humble, qui sont dépendants des autres et qui ne savent pas tout, et qui au fur et à mesure ont grimpé les échelons et sont arrivés au plus haut, mais qui au fil du temps oublient d'où ils viennent, se montrent orgueilleux, même autosuffisants, méprisants. Il veut éviter ça pour la deuxième génération et il veut éviter ça pour nous. Et je crois que là, c'est particulièrement parlant pour nous qui sommes dans l'Occident. Peut-être même plus que l'épreuve difficile de ceux qui vivent ailleurs dans le monde. Je crois que peut-être, d'une certaine manière, c'est encore plus dangereux les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous. Les circonstances d'abondance, de bons moments, de manière générale. Je ne dis pas qu'on ne passe pas par des moments difficiles, mais relativement parlant, passons par des moments abondants. Parce que les bons moments vont arriver. Vous voyez les versets 6-7. « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, dit la deuxième génération. Un pays de cours d'eau et de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Abondance. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadiers. Abondance. Pays d'oliviers et de miel. Abondance. Pays où tu ne mangeras pas. Tu mangeras du pain avec abondance, ou tu ne manqueras de rien. » Oui, ils vont connaître l'abondance. Et ce sera d'une certaine manière pour confirmer l'alliance qu'il a promise à Abraham. Il a promis, ta descendance va rentrer dans le pays promis. Et aussi, si tu obéis, tu rentres dans le pays promis. Mais pour confirmer la promesse faite à Abraham, il les fait entrer pour confirmer cela. Mais il leur avertit du danger. Quand vous rentrerez dans ce pays, où vous connaîtrez l'abondance, le risque, c'est que vous me délaissiez, que vous n'appreniez pas du désert, de l'épreuve difficile du désert, et que vous deveniez autosuffisant et que vous me rejetiez ultimement. Vous voyez ? Il dit, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. » Verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. » Verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Parce que le danger continue dans l'abondance, c'est ne pas se rappeler du passé, mais c'est aussi de croire que, ah ouais, j'ai travaillé dur pour gagner mon pain. Et de devenir autosuffisant. De ne pas réaliser verset 7, regardez avec moi, c'est qui donne cette abondance, verset 7, « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le pays. » C'est Dieu qui fait entrer dans le pays. C'est Dieu qui donne cette abondance. C'est même comme dans le désert, en fait. C'est Dieu qui a donné la manne, mais dans l'abondance, c'est Dieu qui donne l'abondance. Et même, regardez verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » En fait, l'abondance dont nous jouissons vient de Dieu. Tous les bienfaits, dans les moments plus difficiles, et les bons. Mais même la force pour acquérir cette abondance vient de Dieu. Ça nous met au défi dans notre société occidentale, n'est-ce pas? Je pense qu'on voit moins la dépendance de Dieu dans notre société occidentale, parce qu'on a cette illusion de liberté et d'autosuffisance que nous donnent nos richesses. On oublie qu'on dépend de Dieu même pour vivre, même physiquement parlant. Nous, chrétiens, on a tendance à, et c'est une bonne chance, on a comme habitude parfois de prier avant le repas. Alors c'est une bonne chose si on fait ça par habitude, par souvenir, que Dieu pourvoit pour nous, de manière authentique. Mais parfois, on le fait un peu de manière légaliste, je pense. On dit « touche pas à la nourriture, on n'a pas prié ». Mais voyez, en fait, on oublie qu'on doit se souvenir que c'est Dieu qui pourvoit ces choses. On ne le fait pas pour ça, dans cette optique-là. On fait plus, c'est un rite, on fait ça, et puis après on peut manger. Vous voyez ce que je veux dire? Et bizarrement, et parfois Sarah, bon, quelquefois, et mon épouse, elle pense à mon bien et le bien de notre famille, elle dit, ben, c'est bizarre qu'on remercie Dieu quasi seulement avant de manger. Mais qu'en est-il de la voiture? Quand on rentre dans la voiture, est-ce qu'on n'entend jamais quelqu'un qui dit merci pour cette voiture et l'essence qui est dans la voiture et pour me donner la force de travailler pour pouvoir obtenir l'argent pour payer ça et en fait même de pour ce travail que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? On prend toutes ces choses pour acquis et on pense un peu ce et je pense que c'est aussi un peu à cause de ce message qu'on entend dans notre société. The American Dream, make America great again. Oui, j'essaie de faire Trump là, mais ça marche pas. Mais c'est à force de travailler dur, tu vas te sortir toi-même des moments difficiles, des difficultés. Et à force de travailler dur, tu vas atteindre ton rêve. Tu vas avoir cette BMW que tu veux tellement, mais bosse dur et tu vas l'avoir. Alors bien sûr, Dieu ici, dans ce texte, n'est pas en train de nous dire tu ne dois pas te préoccuper de ces choses. J'ai des enfants et s'ils sont malades, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je mette du pain sur la table. Mais en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que ça ne dépend pas ultimement de nous. Ça dépend de lui. On n'a pas de quoi s'enorgueillir devant Dieu. Aucune raison. On devrait plutôt avoir la réaction du verset 10. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. » Dans le sens que tu diras merci à ton Dieu. Tu glorifieras ton Dieu. Encore une fois, je pense que ce texte parle beaucoup nous parle beaucoup dans notre société occidentale. On fait face au grand défi de l'autosuffisance. Vous voyez, dans les moments difficiles, dans les bons moments, on fait face, c'est une épreuve, je pense. Parce que qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? C'est notre dépendance de Dieu. La question, c'est quand on va faire face à des grands succès. Par exemple, obtenir une promotion au travail qui va nous donner, permettre d'avoir plus d'argent. Ou obtenir une bourse dans une université prestigieuse. Ou avoir un prix grâce à une œuvre d'art qu'on a faite. Ou peut-être avoir ce livre qu'on a écrit publié. Vous pouvez penser à d'autres choses. Ou peut-être dans les plus petits succès. Peut-être réussir une prouesse physique. De musculation ou de maîtriser un jeu vidéo, par exemple. À qui est-ce qu'on va donner la gloire? Est-ce qu'on va dire, ouais, I'm the best, man? Non, non, non. C'est de Dieu que vient cette abondance et ce succès. Même la force de nos mains qui nous permet d'acquérir ces choses vient de Dieu. On devrait dire, gloire soit rendue à Dieu, béni soit Dieu, merci Seigneur. Le danger dans ces cas-là, c'est qu'on oublie Dieu. Et voyez, l'oubli de Dieu et l'oubli du passé, non seulement parfois nous fait passer une épreuve où notre dépendance de Dieu est mise à l'épreuve, mais aussi notre obéissance. Peut-être que vous avez du mal à comprendre, là, mais regardez le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Vous voyez, si on oublie Dieu, on va pas lui obéir. C'est juste un peu logique, je pense, non? Par exemple, si Sarah, et ceci ce n'est pas vrai, mais si jamais Sarah, elle n'aimait pas que je laisse le capuchon de dentifrice ouvert, ce que je ne fais pas, mais voilà, je laisse ouvert, et puis qu'elle parte quelques jours, qu'elle revienne et qu'elle voit le capuchon ouvert avec un peu même du dentifrice qui sort. Et elle me dit, mais tu sais que j'aime pas ça. Mais en fait, ça montrerait que durant ces quelques jours, en tout cas en me brossant les dents, je pensais pas à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si on oublie Dieu, ben on va pas lui obéir. Et Dieu, dans le Deutéronome, c'est le souvenir de plusieurs choses qui promeuvent ou qui motivent à l'obéissance de Dieu. Ou bien, l'oubli de Dieu va faire en sorte qu'on n'obéisse pas. Premièrement, le peuple d'Israël allait être béni matériellement s'ils obéissaient à Dieu. Mais nous, on n'est pas dans l'ancienne alliance, donc ça ne vaut pas pour nous. Heureusement, sinon on serait très pauvres, je pense. Mais heureusement, parce que sinon on ne serait pas sauvés. Deuxièmement, on devrait, le peuple de Dieu dans le Deutéronome devrait obéir à Dieu en se rappelant de Dieu lui-même. Tu seras saint car je suis saint. Tu es mon enfant et moi je suis ton père. Moi je suis saint, donc toi tu es saint, t'es le père, t'es le fils. Et là on retrouve ça au verset 11. Lorsque tu garde-toi d'oublier l'Éternel au point de ne pas m'obéir. Deuxièmement, on a la délivrance de Dieu. Et là on les retrouve dans les versets 14 à 15. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, que tu n'oublies l'Éternel, ce qui provoque qu'on désobéisse à Dieu, verset 11, et que tu n'oublies, en gros, verset 14, que c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui t'a délivré de l'oppression, de la servitude. Et ça, c'est une motivation pour obéir à l'Éternel. Sa délivrance par pure grâce, qui est imméritée. Et nous, on n'est pas sous, on n'est pas Israël, on n'est pas sous le joug d'un esclavage physique. Mais le Nouveau Testament nous dit que Dieu nous a délivrés par son grand amour, par pure grâce, de notre péché et du jugement que nous méritons à cause de notre péché. Et quatrième motivation pour obéir, c'est le futur glorieux, abondant, là où Dieu nous mène. Regardez versets 6 et 7. Tu observeras les commandements pour marcher dans ses voies, donc on les met en pratique, ces commandements. Car l'Éternel, verset 7, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, abondant. Donc ça, c'est une motivation, le fait que le futur abondant est une motivation pour obéir. Et nous, nous ne sommes pas dans une alliance où Dieu promet la bénédiction matérielle à cause de notre obéissance. Mais il confirme son alliance, verset 18, dans le Nouveau Testament, il confirme son alliance en nous emmenant à bon port. Écoutez Tite 2, versets 11 à 14, où on voit à la fois que la délivrance du passé est une motivation pour obéir aujourd'hui au commandement de Dieu, pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, mais aussi le futur glorieux est une motivation pour plaire à Dieu aujourd'hui. Écoutez avec moi. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, c'est-à-dire obéir à Dieu, vivre d'une manière qui lui plaît. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chose du passé, délivrance du passé, il s'est donné lui-même pour nous, délivrance du passé, afin de nous racheter de notre iniquité, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Alors je pense que ceci représente aussi un défi pour nous qui sommes en Occident, au XXIe siècle. Car avec l'abondance, on a non seulement tendance à oublier en fait, que tout nous vient de Dieu, même cette abondance et la force pour les acquérir. Mais on oublie non seulement de remercier Dieu à cause de notre orgueil, mais aussi on est de plus en plus résistant à laisser la parole de Dieu gouverner nos vies. Peut-être c'est à cause de la liberté illusoire qui accompagne les richesses auxquelles on a accès. Et peut-être aussi, alors qu'on vit dans l'abondance, on oublie d'où on vient, d'où Dieu nous a délivrés en Jésus-Christ, qu'on était dans un état lamentable, pitoyable, désespéré, tellement coupable, et que Dieu nous a sortis de cela pour une espérance glorieuse, future, que seul Dieu, en Jésus-Christ, rend possible. Parce qu'on croit que c'est bizarrement que l'abondance, le pays promis, c'est ici, maintenant. Mais on se leurre quand on pense cela. Que Dieu nous garde cela. Repentons-nous si on a besoin. Vous voyez, tout comme Israël n'a pas été libéré de l'esclavage de l'Égypte pour être un agent libre, il a libéré pour qu'il l'adore et le serve, lui. Mais nous, chrétiens, il ne nous a pas libérés pour qu'on soit des agents libres, mais pour qu'on l'adore et qu'on le serve, lui. Ce passage nous apprend ainsi que le souvenir de Dieu et de sa délivrance sont cruciales pour qu'on vive de manière qui lui plaît, c'est-à-dire qu'on dépend de lui même quand tout va bien, comme dans les moments difficiles, et qu'on lui obéisse humblement. Et pour terminer, verset, rapidement, verset 19 à 20, Dans ces versets, Dieu nous avertit solennellement, formellement, du danger ultime qu'on court en oubliant Dieu. Là encore une fois, les outils de ce livre qui nous aident et qui pourraient vous aider aussi, nous aident à comprendre ça. Il y a, vous voyez, le ton et les émotions, et aussi la répétition pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu le sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, oui, c'est formel, c'est solennel, le ton et les émotions, on voit les émotions. Si vous faites ça aujourd'hui, je vous déclare que vous périrez. Vous périrez, verset 20, comme les nations que l'Éternel vous fait périr devant vous. L'oubli de Dieu peut mener au pire des désastres, à l'apostasie même. L'apostasie, le délaissement de Dieu complet, qui est finalement l'expression de l'autosuffisance à l'extrême. Le danger de l'oubli de Dieu, quand on passe par l'épreuve des bons moments, quand on connaît l'abondance, c'est d'être comme Israël qui a fini par délaisser Dieu alors qu'elle était dans l'abondance, dans le pays promis, d'adorer d'autres dieux. Et cette vidéo était marrante, et c'est super, merci beaucoup. Mais ça nous rappelle aussi d'un danger sérieux, n'est-ce pas? C'est d'oublier là d'où Dieu nous a tirés en Jésus-Christ. Et qu'on n'est pas ici dans ce paradis, qu'on a tellement besoin, qu'on ne vit pas de pain seulement et de toutes ces pièces et de tous ces succès. En fait, on ne vit pas de ça, on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel pour vivre ultimement, absolument. Vous voyez? L'oubli de Dieu et sa parole vitale peut être mortel. C'était le cas de Julie, au début, quand j'ai parlé de Julie, qui passe une bonne vie. Elle n'a pas compris que Dieu n'est pas comme un génie dans une lampe qu'on frotte. Et même aussi, en fait, finalement, Jean, lorsqu'on soit dans les bons moments, Dieu n'est pas là pour nous, ultimement. Non, nous sommes appelés à vivre pour lui, c'est lui qui est Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes appelés à nous rappeler que nous dépendons de lui. Si on en arrive à l'apostasie, dans les bons ou les bons moments, si ça arrive à quelqu'un qui se dit être chrétien, eh bien je pense que c'est juste une preuve du fait qu'il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais réellement compris l'évangile, je pense. Parce que la Bible nous dit que quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui a compris là d'où Dieu l'a tiré et où il l'emmène par pure grâce. Jésus lui-même dit que personne ne peut ôter un des siens de la main de Dieu parce que Dieu le garde lui-même. Cependant, de la même manière qu'on enseigne à un enfant de ne pas toucher du feu, jouer avec le feu, en lui montrant des effets dévastateurs et même peut-être des accidents avec certains autres enfants qui ont souffert, je pense que Dieu veut nous avertir un peu comme ça. Pas que ça pourrait arriver, en tout cas à nous, croyants sous la Nouvelle Alliance, mais ça, je pense que ça va prendre comme ça, ces versets 19 à 20. Faites gaffe à l'idolâtrie. Faites gaffe à l'oubli de Dieu au début, parce que l'oubli de Dieu au début peut t'emmener à l'oubli de Dieu pendant un certain moment jusqu'au point où tu délaisses Dieu. Et vous voyez, cela, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça commence par d'oublier, de ne pas se rappeler de la croix, de la délivrance du passé, de ne pas se rappeler d'où on va, qu'on n'est pas ici, c'est pas le paradis. Et ça vient du fait qu'on oublie que c'est Dieu finalement qui nous donne toutes choses, dans l'abondance comme dans le besoin. Il faut se rappeler aussi de ce que Jésus disait en Matthieu 6. Il dit que personne ne peut servir deux maîtres. Ou l'on servira l'un et on abandonnera l'autre, ou bien on s'attachera à l'autre et on rejettera l'autre. Je paraphrase, mais voyez avec maman, avec l'argent. Il dit à la fin, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En Matthieu 6, il dit cela. Blaise Pascal disait que chaque être humain, Dieu a conçu l'être humain avec dans le cœur, je paraphrase encore une fois, dans le cœur un trou en forme de Dieu, que seul Dieu peut remplir. Il nous crée comme des adorateurs. C'est dans notre structure, dans notre ADN. Chaque humain est créé pour être un adorateur. Mais que si on n'adore pas Dieu, que seul Dieu peut remplir ce cœur, ce trou, si on n'adore pas Dieu, on va forcément adorer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et en faisant cela, eh bien, on ne peut pas C'est pas Jésus et quelqu'un d'autre. Et Dieu nous met en garde. Et je crois que c'est certainement très parlant pour nous qui sommes en Occident, qui faisons face à l'abondance, très souvent. Je vais lire un passage, en 1 Timothée 6, versets 6 à 9. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Merci Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Faisons attention à l'oubli de Dieu, parce que l'oubli à l'extrême mène dans c'est une pente glissante qui nous mène à la catastrophe. Pour terminer, dans ce texte, nous avons vu que pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, pour vivre dans une humble dépendance de lui, ce qui plaît à Dieu, pour vivre dans une humble obéissance à lui, le souvenir est crucial. Le souvenir de Dieu, c'est lui qui pourvoit, quelle que soit notre situation, dans les bons et les mauvais moments. Rendons-lui gloire. Et aussi, n'oublions pas la délivrance du passé en Jésus-Christ seul, qui nous tire du danger et en fait même du jugement qu'on mérite à cause de la disposition de nos cœurs, et qui nous emmène vers un pays promis, bien plus glorieux qu'Israël il y a 2000 ans. Prions pour terminer. Père Céleste, merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta patience. On est tellement oublieux, tellement peu dépendant de toi, tellement ingrat, tellement désobéissant. Et cela vient du fait qu'on est oublieux, centré sur nous-mêmes, égoïste. Alors qu'on a bénéficié de ton amour et de la grandeur, de la gloire de ta grâce en Jésus-Christ, on te demande pardon. On contrôle, on veut contrôler nos circonstances, on se fâche, on est impatient avec les autres. On est coupable de cela, même encore aujourd'hui. On te demande pardon et on te loue de ce que tu nous pardonnes en Jésus-Christ, que tu as payé le prix par le sang de ton Fils. Et on te prie qu'on nous sache, qu'on n'oublie jamais de là où tu nous as tirés par ta pure grâce et là où tu nous emmènes par pure grâce. Donne-nous dans les mauvais et les bons moments de vivre de manière humble, d'une humble dépendance et d'une humble obéissance pour la gloire de ton nom. Amen.